Remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Mais oui, mercredi, c'est Ondes Femmes dans Radio Zone 93.8. Et tout de suite, 17h-18h30, c'est Remue-ménage. Alors aujourd'hui, nous avions prévu, comme nous vous l'avions annoncé, une discussion autour du divorce et du problème de l'argent en compagnie de Laura Vonesch et Benoît Bastard, surtout Laura Vonesch, qui vient d'écrire un texte sur cette question-là. Or, pour des raisons indépendantes de notre volonté, eh bien, nous ne pouvons pas organiser cette discussion aujourd'hui sur notre antenne. Ce n'est que partie remise. Nous rencontrerons dans une prochaine émission Laura Vonesch sur ce thème-là. Et donc, aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'enregistrement d'une table ronde qui a été réalisée le 21 avril dernier. Table ronde qui était organisée par l'association EFI, Espace Femmes Internationales, et table ronde qui avait pour thème « Conférence des Nations Unies sur les droits de l'homme, quel enjeu pour les femmes ?» Alors, dans quelques instants, cette table ronde. Tout de suite, Nina Hagen.
Hello. the black jar, Rastaman, to the black culture. Have on ice, love you,
Africa.
Wow, Nina Hagen, pour nous mettre dans l'ambiance et dans la forme de Remue Ménage qui casse tout, qui remet tout en cause et qui discute. Et aujourd'hui, nous discutons des enjeux pour les femmes de la Conférence des Nations Unies sur les droits de l'homme, conférence qui aura lieu à Vienne du 14 au 24 juin prochain. Une partie importante de la population mondiale est soumise régulièrement à la torture, à la malnutrition, au terrorisme, à l'humiliation, aux mutilations, risque même la mort simplement parce qu'elle est composée de femmes. Ces crimes, s'ils étaient commis sur d'autres groupes sociaux, soulèveraient en principe un sentiment d'urgence politique, civique et seraient considérés comme des violations importantes aux droits de l'homme. Et cependant, bien que ces attaques soient connues, les droits des femmes ne sont pas considérés comme des droits de la personne. Cela a des implications bien sûr très graves, à la fois théoriques mais surtout pratiques, sur la manière dont la société analyse et traite ces questions qui sont fondamentales pour la vie des femmes. Pourquoi les droits des femmes sont-ils considérés différemment des droits de l'homme? Quelles sont les implications politiques de cette différenciation et quelles sont surtout les perspectives de changement? Alors, des femmes du monde entier sont venues demander aux Nations Unies en avril dernier, lors d'une conférence préparative à la conférence de Vienne, de reconnaître que la violence contre les femmes viole les droits de la personne. Et l'association Espace Femmes International, soutenue par l'association Femmes en Noir, par Onde Femmes et par Éducation et Libération, a organisé cette table ronde à l'IED, l'Institut pour le Développement à Genève, dans l'idée, effectivement, que se discute cette notion de violation des droits de la personne lorsque des violences contre les femmes sont exercées. Et elles avaient, l'association Espace Femmes Internationales avait réuni une immense brochette des femmes du monde entier. J'animais ce débat ce soir-là. Nous l'avons enregistré et nous aimerions vous le faire partager. Un peu à l'état brut, malheureusement, puisque ce n'était pas tout à fait prévu de vous le passer aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais j'espère que les bruits de micro qui circulent ne vous gêneront pas trop. Les femmes qui sont présentes ici ont toutes participé toute la journée à la conférence préparatrice qui se passe en ce moment à l'ONU à Genève, à la Commission des droits de l'homme ou droits de la personne, ça dépend comment on décide de se prononcer aujourd'hui. Voilà. Et elles sont de cette commission préparatrice qui est en train de discuter ce qui va être rediscuté à la conférence de Vienne mondiale sur les droits de l'homme et de la personne au mois de juin de cette année. Conférence qui est réunie que tous les 25 ans, donc c'est vraiment un moment important et où les femmes, effectivement, espèrent apporter un autre regard sur ce qu'elles considèrent être les droits de la personne, c'est-à-dire qui inclurait bien sûr une prise en compte des droits des femmes qui ont été et qui sont toujours largement violés sur multiples aspects. Aujourd'hui, les droits de l'homme, jusqu'à maintenant, comment ils ont été conçus? Ils ont été définis souvent par des hommes, par les hommes blancs, les hommes occidentaux. Et reste à savoir s'il ne faut pas considérer les droits de la personne du point de vue aussi des gens du Sud, et aussi du point de vue des femmes. Et c'est ce qu'elles sont venues discuter, essayer d'influencer. Elles sont là pour rencontrer toutes les gens des gouvernements et de faire leurs propositions, essayer d'avoir un impact sur ce qui pourrait être dit autrement lors de la conférence de Vienne. Alors, toutes, à leur façon, sont engagées dans des groupes de femmes sur les droits de la femme, bien sûr, dans leurs pays différents. Mais elles se sont réunies et retrouvées par rapport à cet objectif précis qui est d'intervenir, de déranger en quelque sorte le bon déroulement de la conférence de Vienne. Alors, je vais vous les présenter en espérant que je ne me trompe pas de nom. Au bout de la table, si je les prends en suivant, c'est Khalida Messaoudi qui vient d'Algérie. Ensuite, c'est Salbia Ahmed, c'est juste, qui vient de Malaisie. Et puis, vous avez Hina Jilali, c'est ça, Jilali, qui vient du Pakistan. Ensuite, Alda Faccio, qui vient du Costa Rica. Gladys Acosta, qui vient de Colombie.
Du Pérou.
Anne-Marie Baronne, qui vient de chez nous, vous la connaissez sûrement. Et Roxane Carillo, qui travaille à l'ONU et vit aux USA en ce moment, mais qui vient du Pérou, si j'ai bien compris. Voilà. Et Maria, qui travaille pour une radio de femmes et qui s'occupe de faire un programme pour les radios de femmes, qui vient de Porto Rico et Costa Rica. Alors, Gladys, qui parle français, chacune parle soit espagnol, soit anglais, enfin, il y aura plusieurs langues ce soir, mais Gladys, qui parle français, va nous faire une petite introduction sur pourquoi elles ont décidé de participer à d'essayer d'influencer le déroulement de la conférence de Vienne, sur quel objectif, comment elles se sont rencontrées, et puis qu'est-ce qu'elles viennent faire à Genève, maintenant en particulier. Et après, on propose que vous posiez, vous, les questions, qu'elles y répondent au vu de leurs expériences personnelles dans leur propre pays ou par rapport à cet objectif plus général qu'elles ont. Alors, Gladys, à toi la parole.
Alors, bonsoir. Excusez-nous d'être arrivés si tard. C'est de notre faute, vraiment. Mais en fait, c'est de la faute de la réunion parce qu'on est parti du Palais de Nations très, très tard. Bon, alors, je voudrais vous raconter un peu comment nous sommes arrivés ici. Et c'est grâce à une initiative, à UNIFEM, qui est l'organisme des Nations Unies, c'est le Fonds des Nations Unies pour les femmes, qui a eu l'initiative de rassembler un groupe de femmes de tous les continents qui travaillons dans nos pays, dans des questions des femmes, dans le mouvement des femmes, dans les groupes féministes, et qui, depuis longtemps, sommes inquiètes parce que d'un côté, on parle de droits des femmes, et de l'autre côté, on parle de droits humains, ou de droits de l'homme, c'est pire en français, parce qu'en espagnol, on dit droits humains, mais en français, on dit encore droits de l'homme. Donc, nous sentions qu'en fait, il y avait un problème, disons, conceptuel, mais aussi dans la pratique de la défense des droits humains. Et nous considérons qu'en fait, les femmes étions en dehors du concept de droits humains et qu'il fallait faire un effort pour démontrer aux organismes des Nations Unies, mais aussi aux groupes qui défendent les droits humains, que les droits des femmes, c'est des droits humains, tout d'abord. Et que ce n'est pas possible de parler des droits humains s'il n'y a pas une reconnaissance des droits des femmes. Et donc, depuis quelques années, nous avons commencé à travailler dans nos pays. Et en fait, nous connaissons d'une certaine façon, et parfois même nous connaissions les noms des femmes que nous avons rencontrées maintenant. Et nous avons travaillé dans les mêmes groupes parfois. Et quelques femmes, par exemple, Hina et Sarah, sont venues du Pakistan, de Malaisie, et pour des réunions à New York, parce qu'à New York il y a un centre global pour la leadership des femmes, qui a rassemblé, pour travailler le problème de la violence contre les femmes, a rassemblé des groupes des militants femmes. Nous ne sommes pas des spécialistes en droits de l'homme, nous sommes plutôt des militantes féministes dans nos pays qui avons pris cette cause, tout d'abord par rapport à la violence contre les femmes, mais après, peu à peu, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait travailler à tous les niveaux, au niveau du développement, au niveau de la démocratie, au niveau du système économique, à tous les niveaux en fait, parce que la cause des femmes est une cause globale. Donc en fait, ce que nous faisons, ce que nous sommes venus faire, c'est faire sentir aux Nations Unies, à l'ONU, que les femmes existent et qu'il faut qu'ils nous prennent en compte et qu'il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas seulement la voix des États qui doit se faire entendre, mais aussi la voix des ONG, des femmes qui travaillent depuis longtemps sur la cause des femmes. Donc, nous sommes là donc, de tous les continents. Nous nous sommes rendus compte qu'en fait, même si nous appartenons à des cultures très différentes, nous avons la même cause, les mêmes buts pour faire ressentir aux Nations Unies que les femmes, nous sommes très importantes, et qu'il n'y aura pas de démocratie, qu'il n'y aura pas de paix, qu'il n'y aura pas d'avancement, qu'il n'y aura pas de développement dans le monde s'ils ne tiennent pas compte des femmes. Et voilà, c'est pour ça que nous sommes là. Et je crois qu'après, chacune d'entre nous pourra expliquer un peu leur propre expérience.
Peut-être, Gladys, tu peux encore expliquer comment vous vous êtes rencontrées, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait vos liens, comment vous vous retrouvez toutes maintenant à Genève, vous allez vous retrouver à Vienne ensuite.
Oui, alors, je disais qu'en fait, il y a des liens. Les latino-américaines, nous nous sommes connues dans des rencontres latino-américaines. Nous avons travaillé, Roxana et nous, nous avons travaillé dans le même groupe Flora Tristan au Pérou. Nous appartenons au mouvement féministe péruvien. Et après, Roxane est allée au New York travailler aux États-Unis à UNIFEM. Et moi, je suis partie du Pérou et je suis allée travailler en Colombie à l'Institut latino-américain des services légaux alternatifs. Je reste là un moment, pour le moment. Et Alda Facio, elle est à Costa Rica. Maria Suarez est à Costa Rica. Et nous nous sommes connus aussi dans des réunions latino-américaines pour travailler les droits des femmes et aussi pour organiser. Nous avons organisé une réunion à Costa Rica du groupe des femmes avant de la conférence régionale latino-américaine des Caraïbes des droits de l'homme, enfin des Nations Unies. Et là, nous avons travaillé ensemble dans la même dimension. Et les autres amis de Pakistan, Malaisie et Algérie se sont connus avec Roxana au New York. Alors, en fait, c'est un peu à New York, un peu en Amérique latine, et maintenant ici, que nous travaillons ensemble, nous sommes en contact par des liens de la communication internationale, soit la radio, soit le fax, soit le téléphone, soit le email, le courrier électronique. Nous utilisons tous les moyens pour être en contact, en fait. Nous sentons que nous faisons part d'un mouvement, en fait, un mouvement international, même s'il n'est pas structuré, même s'il n'est pas organisé dans le sens classique du terme, mais en fait, nous sentons que nous faisons partie d'un mouvement international très puissant, le mouvement des femmes.
Et peut-être j'aimerais que tu précises encore une dernière chose. En quoi venir à Genève maintenant est une étape importante de l'objectif que tu as défini par rapport à Vienne?
Oui, alors l'organisation de Vienne, en fait, de la conférence mondiale, la conférence mondiale a prévu des réunions régionales. Mais seulement il y a eu des réunions régionales en Amérique latine et Caraïbes, en Asie et en Afrique. Et l'organisation de la conférence a des commissions préparatoires, en fait, comme celle qui se passe à Genève en ce moment, parce que l'organisation, vous savez bien que tout l'appareil administratif de droits de l'homme, en fait, fonctionne à Genève. Donc Genève a été le centre, non, où fonctionne le centre des droits de l'homme, ça s'appelle comme ça, encore, ça s'appellera bientôt de droits humains, nous espérons bien après Vienne. Et donc, ces réunions préparatoires, c'est un peu on traite le sujet de l'organisation de la conférence mondiale. Et donc, nous avons pensé, puisque nous avons participé, puisque le groupe des femmes avons participé aux conférences régionales, il nous paraissait très important d'être présent au moment où on traite les problèmes organisatifs, les problèmes concrets avant la réunion de Vienne. Parce que nous pensons qu'il faut assurer que la participation des femmes soit vraiment, qu'on sente la participation des femmes. Et c'est notre objectif, en fait, c'est démontrer qu'on existe. Donc, parfois, on rigolait parce qu'on disait qu'on dérange, qu'on fait une interruption, vous savez, comme c'est, notre présence, en fait, suggère une espèce d'interférence à cet langage, à cette structure très, très rigide des Nations Unies, parce qu'en fait, nous sommes des femmes qui sont partout dans le monde. En fait, tous les gouvernements disent, c'est les femmes, c'est vrai, elles ont raison, c'est la moitié de la population du monde qui est présente. Évidemment, nous savons bien que nous ne représentons pas les femmes, mais nous sommes des femmes qui savons bien quels sont nos intérêts. Donc, nous faisons un travail auprès des États et auprès des organismes des Nations Unies qu'on peut appeler un travail de pression, parce que nous ne sommes pas là pour accepter les règles telles qu'elles sont. Au contraire, nous sommes là pour démontrer que tout l'appareil des Nations Unies sur les questions des droits de l'homme, sur les questions des droits humains, n'ont jamais résolu, n'ont jamais entendu, n'ont jamais compris quels sont les problèmes des femmes. Et donc, c'est pour ça que nous avons pensé que c'est très important de faire une présence politique, parce que c'est ça, ce que nous faisons, c'est une pression politique, c'est une présence politique des femmes organisées de tous les continents, en face au gouvernement et face aux organismes de la société. Juste préciser que normalement il y a dans leur délégation des femmes africaines aussi qui malheureusement ne sont pas là ce soir, mais il y a parmi elles des femmes de tous les continents, donc y compris des femmes africaines.
Je voudrais peut-être demander à Anne-Marie Baronne, qui est suissesse, donc qui n'est pas dans la délégation qui intervient aujourd'hui à l'ONU, peut-être de nous dire un petit peu comment elle voit les choses. Bon, Anne-Marie est avocate, travaille à Genève dans beaucoup d'associations qui se préoccupent des droits de la femme, que ce soit l'association Viol Secours ou contre le harcèlement sexuel. Elle a aussi vécu un certain temps au Nicaragua, a participé, je crois, à la rédaction de tout ce qui concerne les articles de loi dans la constitution nicaraguayenne pour les femmes. Donc les droits de la femme au niveau institutionnel, c'est aussi une chose que tu comprends, que tu connais bien. En quoi cette conférence de Vienne te semble être un objectif important pour toi par rapport à la pratique que tu as et que tu partages avec d'autres femmes peut-être?
Bon, disons, là tu me prends un petit peu de court. Moi, ma réflexion, elle était un petit peu... je partais de l'idée que tout le monde ici, autour de cette table, en tout cas, était suffisamment convaincu que les droits de la femme doivent être inclus dans les droits de la personne humaine. Je pensais qu'il était peut-être intéressant aussi d'amener quelques réflexions plus critique et plus, disons, interne au mouvement des femmes, quelques questions qui, me semble, doivent être posées en relation à la notion même de droit de l'homme et en relation en particulier du rôle de l'État ou des États, de la communauté internationale des États et de ce que les femmes attendent de l'État ou des États. Je pense qu'il y a là, il y a quand même un certain nombre de paradoxes, enfin, ou d'éléments qui font que nos revendications, les revendications des femmes, ne sont pas strictement identiques à la revendication générale des droits de l'homme. Il y a un certain nombre de points qui s'en distinguent, et je pense que ça vaut la peine de mettre en valeur ou de mettre en lumière en quoi c'est différent. Parce que c'est peut-être là aussi qu'on se rend compte qu'on a une autre vision, une autre conception des droits et de ce que les femmes attendent des droits. En particulier, je crois que c'est une banalité, mais il faut peut-être le rappeler, la notion de droit de l'homme, et je continue à l'appeler droit de l'homme parce que historiquement, c'est bien des droits des hommes qu'il s'agissait, c'est-à-dire des citoyens mâles, blancs, occidentaux et bourgeois. Ça, je crois que c'est bien de ça qu'on parle. Et ce n'est pas simplement en changeant l'appellation qu'on va changer, en tout cas, cette origine historique qui marque encore profondément la notion, cette catégorie, ce concept juridique de droit de l'homme. Ces droits étaient aussi des droits conçus donc, dans une conception politique libérale, donc des droits individuels, des droits du citoyen, donc mâle, contre l'État, contre l'ingérence de l'État. Et ces droits, en quelque sorte, formaient aussi... la base ou consacrait cette fameuse division entre sphère publique et sphère privée qui est un des fondements en tout cas de l'oppression des femmes et dont les femmes, disons, ont encore tellement à souffrir. Pourquoi je dis ça? Je dis ça dans le sens que ces droits humains, ces droits de l'homme à l'époque s'exerçaient exclusivement dans la sphère publique, enfin s'adressaient uniquement à la sphère publique. Et en contrepartie, si je peux dire, le citoyen, donc mâle, avait entière liberté dans ce qui était considéré sa sphère privée, c'est-à-dire la famille et bon, tout ce qui touche à la sexualité d'une manière générale. C'est-à-dire que l'État s'interdisait de s'ingérer dans ce qui était considéré comme la vie privée. Et cette conception qui est, que résume, disons, un slogan français qui dit « charbonnier est maître chez soi », qui a son équivalent, je pense, dans d'autres langues, cette conception, elle est encore profondément en vigueur aujourd'hui, si ce n'est dans les textes légaux, en tout cas dans la réalité concrète. Et ce qui explique notamment que toutes les violences qui s'exercent au sein de la famille ne sont généralement pas, en tout cas dans beaucoup de pays, ne sont pas expressément réprimées dans une loi, et qu'en tout cas, elles sont très largement tolérées par, il y a un consensus, disons, très large au niveau des autorités, au niveau de la société, sur le fait que ces violences, finalement, sont banalisées et ne sont pas considérées l'équivalent d'autres violences qui s'exercent, elles, dans le public. Donc ça, je pense que c'est un élément dont il faut qu'on tienne compte. Un autre élément, donc c'est justement par rapport à l'État, la notion classique de droit de l'homme, c'était donc des droits contre l'État. C'était donc empêcher l'État de limiter trop la liberté des individus, enfin des individus, donc je répète, possédants, mâles, occidentaux. En fait, notre démarche, elle est relativement différente. La démarche du mouvement féministe, en tout cas dans ce domaine des violences, c'est de demander d'être protégée de la violence des hommes. Et à qui est-ce qu'on demande cette protection? Précisément, on la demande à l'État. On demande que l'État promulgue des lois et, à la limite, on demande que l'État s'ingère davantage dans cette sphère dite privée où, justement, se déroule la majorité des violences quotidiennes que subissent les femmes. Donc là aussi, je relève ça simplement pour dire qu'il y a une spécificité dans nos revendications que ce n'est pas simplement assimilable. Il ne suffit pas de prendre la catégorie droit de l'homme et de dire on ne veut plus que ça s'appelle droit de l'homme, on veut que ça s'appelle droit de la personne. Je pense qu'il y a des spécificités dans nos démarches qu'il faut peut-être mettre en avant. Et ce rôle de l'État, évidemment, il présente aussi certaines ambiguïtés, parce que je ne pense pas que du jour au lendemain, l'État ou la communauté internationale des États soit devenue ou puisse devenir l'allié des femmes. Donc, bien sûr, on a des choses à demander à ces États, mais je pense qu'il faut se garder de mystifier ou de faire croire peut-être que l'État peut résoudre les problèmes des femmes.